Ouvrir la parole de Dieu encore une fois dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Aujourd'hui nous allons voir les versets 4 et 5. Mais lisons déjà les premiers 8 versets, relisons-les. Parce que nous voulons toujours que nos passages soient dans un contexte. On l'entend des fois. Dans les classes d'homilétique, l'homilétique c'est cette science qui permet de l'interprétation de la parole, et on entend dire un texte hors de son contexte devient un prétexte. Nous voulons garder l'écriture dans son contexte. Donc je commence à lire au Romains chapitre 12 et au verset 1 jusqu'au verset 8, il nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation et que celui qui donne le fasse avec libéralité et que celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il y a plus de volontaires pour tout le reste, sauf pour le dernier, là, la miséricorde. Alors là, c'est un peu, on est un peu moins généreux, là. Je relis les versets 4 et 5. Il dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Vous savez, il y a trois éléments qui caractérisent l'œuvre de Dieu. C'est parce que Dieu s'exprime au travers de son œuvre, comme nous nous exprimons à travers ce que nous faisons. Donc il y a trois éléments qui se sont transmis. L'unité dans la multiplicité et dans la diversité. Dieu, c'est tout est un chez lui, et en même temps, c'est multiple et c'est divers. Vous regardez la nature, il y a une unité dans la nature, on voit que c'est tout issu d'une même pensée, et en même temps il y a une multitude de tout est multiplié par X, hein. et puis il y a une variété, une diversité extraordinaire. Et c'est la beauté de la nature, parce que Dieu s'exprime au travers de cela. Chez les humains, on n'a pas cette même capacité. Chez les humains, on crée l'union, quand on veut être sûr d'avoir une union, c'est par l'autorité et la conformité. Et c'est pour ça que, par exemple, une dictature impose de l'ordre, et puis tout le monde doit penser pareil. Et puis, tant que tout le monde pense pareil, tout le monde, on crée une union, les votes sont à 98% pour le même président. Tandis qu'après, quand on arrive en France, alors là, il y a la variété. Mais chez l'homme, pour avoir de l'union, pour avoir pour pouvoir mettre tout le monde, je ne dis pas unité, mais avoir de l'union, eh bien, il y a une manière de l'imposer, et puis aussi, on veut que tout le monde pense pareil, soit pareil, fasse la même chose, c'est la conformité. Tandis que Dieu, il n'est pas comme ça, et donc l'Église de Jésus-Christ, qui est une invention de Dieu, eh bien, ne doit pas avoir... Elle doit ressembler à l'œuvre de Dieu. Et donc, on doit retrouver dans l'Église de Jésus-Christ, on doit trouver unité, multiplicité et diversité. Et maintenant, je regarde ce passage, hein, je revois ce passage. Il nous dit, nous formons un seul corps, donc l'unité. Hein. Le corps de Christ est composé de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, hein, comme leur Sauveur et Seigneur. Et donc, toutes ces personnes, partout où ils sont, il dit c'est une unité, c'est une église, hein, un seul corps, il parle. Mais il dit, il y a plusieurs membres, donc une multiplicité, et les membres sont différents des uns des autres, ils ont des fonctions différentes, et il y a une diversité. Et donc, finalement, dans l'Église de Jésus-Christ, eh ben, les chrétiens ne se ressemblent pas comme des allumettes dans une boîte. Hein. Ils sont, ouais, c'est varié, il y a de tout, toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les formes, tous les niveaux, c'est varié. Et c'est ça qui lui fait plaisir. Dieu, il dit, moi, ce qui me caractérise, c'est de pouvoir créer l'unité alors qu'il y a grand nombre et ils sont tous différents les uns des autres. Et c'est un truc que les hommes, les humains gèrent mal. On a du mal à gérer ça. Hein, donc on a inventé un système qui permet, on dit, ben écoutez, on suit la majorité. Parce qu'on sait qu'on ne pourra jamais rassembler tout le monde. Mais, et ici, donc ce lien existe. Et pour que tout cela réensemble, il y a quelque chose qui lie tout cela. Et que je vais appeler une relation. Mais cette relation, c'est le lien d'amour qui existe, et ce lien d'amour qui permet à toutes ces pièces de rester ensemble et de former une unité. Et s'il n'y avait pas une relation entre toutes ces pièces qui sont variées et multiples, s'il n'y avait pas une relation entre elles pour les maintenir, les rapprocher, eh bien, ce serait l'équivalent d'avoir toutes les pièces d'une moto dans un sac. On dit, c'est garanti, toutes les pièces sont là. Eh oui, mais qu'est-ce que j'en fais? Il n'y a aucun lien entre les pièces. Mais lorsque il y a une intelligence qui intervient et qui rassemble ces pièces et qui met un lien entre ces pièces et les met à chacune, après, tout d'un coup, on a, par exemple, on a une moto qui remplit sa fonction. Hein, c'est, toutes les pièces, si elles sont dans un sac, c'est pas utile. Si on les rassemble, mais avec un lien, chacun et chacun remplit sa fonction et tout, après, on a quelque chose d'utile. Et c'est un peu, c'est ça que... et on ne veut pas... C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis que l'Église de Jésus-Christ, c'est pas un endroit où les gens, individuellement, ils viennent, ils partent. Et à peine si on se dit bonjour, on se regarde, et puis on s'en va. Mais ce n'est pas le corps de Christ, ça ne peut pas être l'expression. Ce n'est pas ça que Dieu voulait. Hein, lui, il veut quelque chose où c'est un corps, et un corps vivant. Il nous dit qu'en plus, eh bien, c'est pas mécanique l'Église, mais c'est un organisme vivant. Et Pierre, l'apôtre, il nous dit, mais vous êtes chacun une pierre vivante dans un édifice. Et c'est donc chaque pièce est vivante, et chaque pièce, elles ont une fonction, elles se rapprochent, il y a un lien qui maintient tout cela. Et ça, c'est caractéristique de l'œuvre de Christ. Et c'est ça que Dieu voudrait reproduire, parce que chaque petite communauté, finalement, est une représentation locale du tout. Hein? Donc, on devrait pouvoir, dans chaque petite assemblée, un peu revoir les éléments qui caractérisent l'Église de Jésus-Christ. Et celle-là, eh ben, elle n'a pas un nom, hein, je ne peux pas l'appeler de n'importe quel nom qui existe, avec tous les noms qu'on a pour dans la chrétienté, eh bien, il n'y en a aucune qui représente l'Église de Jésus-Christ. Lui, son Église, il l'a conçue avant qu'on donne des noms. Hein, et donc, c'est ceux qui ont cru, de par ici, de par là, de partout, c'est eux qui composent l'Église de Jésus-Christ. Et c'est vrai que, après, vous dites, mais Steve, je ne vois pas trop ça. Hein. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais c'est ça que Dieu veut. Hein. Et c'est ça qui va caractériser. Et c'est là, c'est lorsque je retrouve un peu de ça, je me dis, ah, Dieu doit être à l'œuvre, là. Donc, en lisant ce chapitre 12, nous avons fait remarquer que dans les versets 1 et 2, on montrait que Dieu, déjà, il fait un travail individuel. Chaque pièce est une œuvre d'art. Je reprends l'image de la moto tout à l'heure, hein, mais chaque pièce, elle a été, hein, il y a quelqu'un qui a réfléchi, qui l'a conçu, qui l'a fait d'une certaine manière, chaque pièce. Et après, toutes les pièces ensemble, ça crée encore un autre, la moto. Hein, donc, chacun de nous, hein, on ne peut pas se regarder comme dire, bon, moi je suis là, si je veux, si je peux, si je ne peux pas, je suis... Non, non, tu es une pièce essentielle dans le tout. Et donc, il dit, il y a un travail, et Dieu travaille de manière individuelle dans chaque membre de l'Église, chacun en particulier. Et après, il dit, après, je t'ai formé, hein, j'ai fait le carburateur. Mais ensuite, le carburateur, bah, tout seul, il ne fait rien. Il faut l'associer au moteur. Et puis après, ensemble, ils vont pouvoir faire, associer à d'autres, ils vont pouvoir faire quelque chose. Et donc, et au verset 3, ce qu'on a vu la semaine dernière, bah, justement, il nous dit, voilà, on est en train d'intégrer de ces pièces individuelles, on est en train de les intégrer dans le tout. Et comme nous l'avons dit dimanche dernier, eh bien, pour que ça soit vraiment possible, la première chose, c'est l'humilité. Il faut que l'humilité soit là. L'humilité, ce n'est pas de s'abaisser, ce n'est pas de se réduire, c'est reconnaître ce que je suis réellement. Hein, ce que... Et cette humilité, est en fonction de chaque pièce, et là où elle porte, et l'importance qu'elle a, eh bien, elle est là. Il y a certaines pièces qui travaillent tout le temps, il y a certaines pièces qui travaillent à certains moments, peu importe, mais chacune a sa place. Et donc, on arrive à ce verset 4, il dit, écoutez, je prends une image, c'est l'image du corps, d'un corps, un corps humain par exemple, et il dit, le corps, bon, il est un, c'est sûr, que dès qu'on retire un membre, on l'appelle handicapé, hein, peu importe quel membre. Mais tous les membres, on ne peut pas les intervertir, hein, vous ne pouvez même pas intervertir le bras droit et le bras gauche, hein, ça ne marche pas. Il n'y a rien, chacun a sa place, chacun a sa fonction. Essayez de changer l'emplacement de vos doigts, hein, sur une main, essayez de faire autrement et ça ne marche plus. Si chacun a sa place, chacun a son rôle, même si j'utilise mon pouce chaque fois que je fais quelque chose avec la main, tandis que le petit doigt, je ne m'en sers pas chaque fois, mais bon, j'en ai besoin. Il a dit, j'ai formé ce corps. Et il nous dit, et dans Actes chapitre 2, verset 47, il nous dit, et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le principe depuis toujours, c'est le Seigneur qui ajoute. C'est pas nous, c'est pas un prêtre, c'est pas un pasteur, c'est pas une personne d'autre. Il n'y a pas un rituel qui ajoute. C'est pas le baptême qui nous ajoute à l'Église de Jésus-Christ. C'est pas, peut-être il ajoute notre nom sur un registre, mais il ajoute, c'est le Seigneur qui ajoute ceux qui sont sauvés. C'est lui qui, il connaît les siens et les rajoute et compose son troupeau avec ses brebis. C'est le Seigneur. Et donc, ce qui est important pour moi, hein, si je veux être dans l'Église de Jésus-Christ, hein, celle qui va reconnaître et celle qu'il préserve, eh bien, c'est en reconnaissant le Seigneur Jésus, en venant à lui et en et en recevant, en reconnaissant que je suis pécheur, et lorsque j'ai reconnu que je suis pécheur, je reconnais que c'est Christ qui est mort pour moi, pour mon péché, qui a payé le prix, et je lui demande, je lui dis, écoute, tu as tout fait, je sais, mais je te le demande, je le veux pour moi. Et alors là, à ce moment-là, il dit, je te pardonne tes péchés, tu deviens mon enfant, c'est une nouvelle naissance, et là, à ce moment-là, il nous introduit dans le corps de Christ. Hein, et vous savez, ça nous rassure que ce soit lui qui le fait. Hein. Quand c'est des humains, on dit, ouais, mais bon, après, 3 ans plus tard, j'apprends que celui qui m'a signé mon nom dans le registre, ben, finalement, c'était un tordu. Après, je me dis, bon, est-ce que c'était bon ou pas? Est-ce que ce qu'il m'a fait, c'était bon, puisque lui, maintenant, je me rends compte qu'il n'était pas en état de le faire. Hein, vous pouvez avoir des doutes. Hein, de nos jours, il y a des doutes, il y a toutes sortes de doutes. Mais quand je sais, c'est le Seigneur ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés, là tu te dis, ah, ça me rassure, parce que quand c'est lui qui le fait, eh bien c'est bien fait, et il fait ce qu'il veut, et c'est pour toujours. Et donc ce verset 4, justement, eh bien nous montre comment nous sommes placés dans le corps de Christ. Bon, après, c'est pas nous qui choisissons quel membre nous allons être. Hein. C'est pas nous qui choisissons la fonction. Hein. C'est pas moi qui choisis d'être le nez dans un visage. Si le nez tout seul, on demande à un petit, qui veut être un nez? Personne veut être un nez. Mais bon, si vous voyez quelqu'un qui n'a pas de nez, ça, c'est pas beau. Hein. C'est quand même important. Hein. Vous savez, c'est le tout. C'est chacun remplit sa fonction et dans le corps. Et ça fait une unité. Et finalement, ça répond à tous les besoins. Et on a un corps merveilleux. Et lorsque vous regardez à des athlètes, en athlétisme, et vous voyez ce qu'ils peuvent faire avec un corps qui est coordonné, vous dites, mais c'est extraordinaire. Tous ces muscles qui travaillent en même temps, qui travaillent ensemble, et ça fait quelque chose de gracieux, d'harmonieux. Eh bien, dites, ça c'est beau. Oui, mais c'est ça que Dieu veut. Hein, c'est sa pensée, c'est l'image qu'il prend. Et donc, chaque membre a une fonction à remplir. Mais tous les membres, finalement tout seuls, ne peuvent pas remplir la fonction sans les autres. Hein? Donc aussi merveilleux que la main peut être, hein, c'est quelque chose que les hommes ils ont du mal à reproduire, même en faisant des robots, ils n'arrivent pas à reproduire quelque chose comme une main. Hein. C'est trouver un robot qui arrive à faire tout ce que fait la main, c'est pas évident. Hein. Enfiler une aiguille, écrire et toutes les autres fonctions de la main, c'est une merveille. Mais une main toute seule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut rien faire. Si elle n'est pas attachée au bras, qui est attachée au corps, qui est liée au cerveau, la main est inutile. Hein, donc, nous avons une fonction, mais il y a une relation. C'est le fait d'être liés les uns aux autres qu'on peut produire. Et dans le corps de Christ, c'est ça que Dieu veut. Et c'est ça qui peut être beau. Et ce qui fait cette relation... Hein, je dis relation, mais je peux dire un autre mot, mais si je dis amour. On a tellement l'habitude d'entendre amour, 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 que ça ne veut rien dire. Et puis ça fait bien, mais... Et puis aussi, le mot amour est tellement banalisé de nos jours qu'on ne sait plus ce que c'est et on ne sait pas quoi en faire. Hein, parfois, c'est réduit à quelque chose de très animal. Et puis, après, on attend le 14 février pour en parler, hein, parce qu'on ne sait pas quoi faire le reste de l'année avec. Mais l'amour, c'est ce qui fait ce lien. Hein. Ce qui permet de fonctionner ensemble, c'est cet amour mutuel. Hein. Et l'amour dont parle la Bible, l'amour que Dieu... C'est l'amour qui est le fruit de l'esprit. Hein. Vous connaissez le Galates 5, 22, il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et il dit tout cela ensemble forme un fruit. Hein, ce n'est pas chacun individuellement, c'est tous ensemble. Quand on a tous ces aspects ensemble, on dit « Ah, ça c'est l'amour de Dieu. Ça c'est l'amour que Dieu cherche. » Et c'est cet amour qui permet les liens entre nous en tant qu'enfants de Dieu. L'apôtre Pierre écrit aux croyants qui, dans sa première épître, et peut-être vous voulez aller voir avec moi là, dans la première épître de Pierre et au chapitre 1, il s'adresse aux croyants qui sont dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Et en fait, c'est l'Asie mineure, c'est aujourd'hui ce qui est représenté par la Turquie. Hein. Donc il s'adresse à tous les chrétiens de l'Asie mineure. Et puis, il leur dit, dans les versets 15 et 16, il nous dit, écoutez, je veux vous rappeler quelque chose, c'est que Dieu est saint. Et si nous sommes ses enfants, si nous sommes à lui, nous devons être saints. Hein, si Dieu est saint, et il faut que vous aussi, vous soyez saints, ça a été dit aux enfants d'Israël, et ça nous est rappelé ici aussi, il dit, nous devons être saints dans toute notre conduite. Donc pas seulement avoir des apparences de sanctifié quand on arrive au culte, mais c'est toute notre conduite. À n'importe quel moment, quelqu'un, c'est un peu comme, vous savez, quand ils font les contrôles des athlètes, pour les contrôler s'ils prennent de la drogue, quelque chose, tout d'un coup, à n'importe quel moment, on intervient et puis tu prends le test. Eh bien, il faudrait que, pour un enfant de Dieu, qu'on vive de telle manière qu'à n'importe quel moment, si je suis interpellé, eh bien, dit, non, ça correspond à la vie du Seigneur. Hein, c'est pas seulement une fois que les jours où je mets la cravate que je dois bien me comporter. Hein, c'est tout le temps, à n'importe quel moment, où le Seigneur intervient. Et je ne le fais pas pour plaire à quelqu'un, je le fais parce que Dieu est saint, et il est toujours saint, et donc je dois être saint dans toute ma conduite. Je dis, Steve, tu rends la tâche difficile. Non, c'est pas moi, hein, c'est ce qui a marqué. Et il nous rappelle au verset 19, il a dit, nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc il a dit, c'est quand même, il a payé un prix précieux, mais nous sommes rachetés. Et après, au verset 22, donc tout ça, il arrive au verset 22, il dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été générés. » Non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Il dit, maintenant que vos péchés sont pardonnés, maintenant qu'il faut que vos âmes soient purifiées, et remarquez, là au verset 22, purifiez vos âmes, il ne dit pas en aimant la parole de Dieu, il ne dit pas en écoutant la parole de Dieu, hein, je prends une application, je mets ça dans l'oreille, puis il y a la parole de Dieu, donc ça va. Non, et il ne dit pas que c'est en la lecture seulement, c'est très bien, mais il dit en obéissant à la parole. Hein. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole, il y a beaucoup de gens qui aiment la parole, il y a beaucoup de gens qui ont des Bibles chez eux, mais il dit c'est vous purifiez vos âmes en obéissant à la parole. Hein, vous vous rappelez, au début, on avait parlé de l'être humain, qui est l'esprit, hein, c'est la partie de notre être invisible qui est en relation avec Dieu, si nous sommes enfants de Dieu. Et après, notre âme, c'est toute cette partie chez nous qui, le jour où on meurt, ça ce n'est plus. Hein. C'est ça. Il y a quelque chose qui est parti. Et donc, ça réfléchit plus, ça n'aime plus, ça ne pense plus, ça ne compose plus, ça ne fait rien. C'est l'âme. Et il dit, et l'obéissance à la parole de Dieu, donc j'entends la parole de Dieu, comme il a été rappelé tout à l'heure, grâce à l'Esprit de Dieu, on peut comprendre, on reçoit la parole de Dieu, on la met en pratique, et en la mettant en pratique, ça refait. Et donc, au verset Romains 12, verset 2, il nous parle du renouvellement de l'intelligence. Il nous parle de cette transformation, cette métamorphose qui se passe en nous. Et il dit, vos âmes sont purifiées. Tout d'un coup, je pense plus pareil. Mes désirs ne sont pas les mêmes. Mes relations ne sont pas les mêmes. Tout est affecté par le fait que la parole de Dieu est en moi, hein, et vit en moi. Et ensuite, il dit, donc au verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. » Le mot « sincère », là, déjà, c'est pas mal, hein, un amour sincère, mais le mot grec, c'est le mot qui dit « sans hypocrisie ». C'est-à-dire, c'est même pas « tu fais semblant ». Chez les Grecs, le mot hypocrite, c'était le mot pour un acteur. C'est-à-dire, il joue le rôle qui n'est pas lui. Il fait quelqu'un d'autre. Il apparaît comme quelqu'un d'autre. Et donc, c'est ça un hypocrite. Et donc, il dit, mais que votre amour soit sans hypocrisie, c'est-à-dire que c'est pas une façade, et puis derrière, c'est autre chose. C'est ça, sincère. Il dit, vous avez besoin, donc, d'être purifié par la parole, qui purifie vos âmes, donc ça change vos manières de penser, ça change votre manière de percevoir les autres, même le monde qui vous entoure, vous le percevez autrement. Et puis, il dit après que ça vous permet d'avoir un amour sans hypocrisie. Parce que pour que je puisse aimer tout le monde et chacun, il y a un travail qui doit se faire, hein. Il faut que ma manière de percevoir chacun soit différente. Hein, on est fort pour aimer les gens qui sont loin. Hein, on donne de l'argent pour aider la famine qui est à 30 000 kilomètres, bon, pas 30 000, mais plusieurs milliers de kilomètres. On est prêt, on peut le faire. Mais c'est difficile d'aimer celui qui est juste à côté. Hein, c'est beaucoup plus difficile parce que je le perçois. Je le vois et j'ai mes idées sur lui et donc j'ai du mal à l'aider. Tandis que celui qui est au loin, je ne sais rien sur lui, donc c'est très bien. Je peux l'aider. Mais c'est quelque part, il y a un travail qui doit se faire pour que je puisse percevoir celui qui est près de moi, de percevoir autrement, pour qu'il y ait vraiment un amour fraternel. Il ne parle pas de politesse. Hein. Bon, c'est déjà pas mal, hein, d'avoir des relations de politesse. C'est déjà sur la route, c'est bien. Au marché, c'est bien. Au centre commercial, c'est bien d'avoir des relations de politesse. Mais ce n'est pas l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est cette manière de percevoir la personne, de désirer son bien et de l'aimer comme Dieu nous a aimés. Il dit, il y a quelque chose qui se passe. Et pour que l'amour fraternel, c'est l'amour entre les frères et sœurs dans une communauté. Et il dit, là, quelque part, il y a un travail qui doit se faire. Qui commence par le haut, qui passe et qui traverse notre âme, et puis qui me fait voir l'autre autrement. Et en fait, de le voir comme Dieu le voit. Dieu dit, moi, vous savez, moi, ma manière de le voir, je l'aime. Il dit, où est ton problème, toi? Ah, ben moi, je vois ses défauts. Il dit, et tu n'as pas vu les défauts de celui qui est dans le miroir? Il n'en a pas, lui? Ah ben oui, mais moi je sais, mais les autres, ils ne savent pas. Oh, demande à ta femme. Notre amour doit être sans hypocrisie, c'est-à-dire sincère, vrai. S'il est défectueux, eh bien l'admettre et dire, bon, ben, on travaille dessus, hein, c'est tout. Et si j'ai quelqu'un, je dis, oh, j'arrive à aimer beaucoup de monde, mais celui-là, ça passe difficilement. Alors, fais-en un sujet de prière. Parle-en au Seigneur. Et s'il y a vraiment quelque chose qui le dérange chez lui, peut-être que tu as besoin de lui parler. Parle-lui avec amour. C'est comme ça que Dieu t'a parlé. Il y avait un gros problème, il ne pouvait pas avoir de relation. Mais en la personne de Jésus-Christ, Dieu m'a parlé. Il m'a dit la première chose, il dit, écoute, d'abord, sache d'avance, je t'aime. Ensuite, on parlera des petits problèmes qui existent. Mais d'abord, je t'aime. Et quand on aborde quelqu'un de cette manière-là, ça change tout. Hein. Mais quand on vient, on arrive à l'attaque, et puis en avant, on commence à le démolir, sans qu'il y ait cette grâce, Eh bien, là, bien sûr, la réaction, hein, c'est que l'autre réagisse. Hein, c'est rien, c'est tout à fait normal. Vous pouvez avoir le petit chat le plus doux, mais vous l'attaquez comme ça, tout de suite, hein, il réagit. Hein. Mais c'est, l'être humain, c'est encore... C'est, mais sachons apporter. Il dit écoute, faut que, si tu as un problème avec ton frère, d'abord commence avec un travail chez toi. Commence à laisse la parole agir en toi. Purifier ton cœur, purifier tes pensées, purifier de percevoir que tu le perçoives quand Dieu le perçoit. Mais bien sûr qu'il n'est pas parfait. Oui, mais toi non plus. Alors, hein, et nous serons jugés par le jugement dont on juge les autres, il nous dit. Hein. Il dit, ne sois pas trop dur avec lui, parce qu'après, Dieu est obligé d'appliquer la même règle pour toi. Et donc, il nous dit, il nous parle de cette référence, et puis alors il continue dans ce verset, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité de la parole pour avoir un amour sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il dit, c'est ça qui fait la relation, c'est ça la colle, c'est ça le lubrificateur, c'est ça qui permet le lien entre eux. Il dit, c'est un amour, aimez-vous ardemment de tout votre cœur. Tiens, ça me fait penser à une parole de Jésus, hein, qui a dit, quand est-ce qu'il a dit, qui fallait-il aimer de tout son cœur ? Hein, quand on lui a demandé quel était le plus grand commandement, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ah, mais il emploie la même expression pour le frère. Hein, oui, moi je veux bien aimer Dieu, mais mon frère, oh, c'est dur. Ah, il dit, non, c'est le même mot. Hein. C'est la même, au même degré. Tu aimes ton prochain au même degré que tu aimes Dieu. En fait, c'est à tel point que il nous dit, l'apôtre Jean, hein, c'est qui était l'apôtre qui a parlé de l'amour plus que n'importe quel apôtre, mais il nous dit dans son épître, il dit, celui qui ne peut pas aimer son frère, eh ben, comment est-ce qu'il peut prétendre aimer Dieu ? Hein, le verset dit, hein, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous savons que nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. D'accord. Laissez-moi, juste pour mettre en valeur, pour nous faire voir la chose autrement, je vais remplacer par relation, hein, c'est le lien. Et je vais lire, si quelqu'un dit, j'ai une relation avec Dieu, et qu'il n'ait pas une relation avec son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'a pas de relation avec son frère qu'il voit, comment peut-il avoir une relation avec Dieu qu'il ne voit pas ? Or, nous avons de lui ce commandement, que celui qui a une relation avec Dieu ait aussi une relation avec son frère. Quand on dit le mot amour, ça fait abstrait. C'est quelque chose, c'est difficile de mesurer, peser, on ne peut pas prendre de photos, on ne peut rien faire. Mais quand on dit relation, après, tout d'un coup, ça devient plus engageant. Il dit, tu peux pas dire que tu as de relations avec Dieu si tu n'as pas de relation avec ton frère qui a été sauvé par le même sang que toi, qui lui aussi dit qu'il aime Dieu. Il nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis il ajoute ton prochain comme toi-même. Et nous avons besoin de cet amour-là. Hein. Et dites, Steve, j'en vois pas beaucoup. Ah ben alors justement, ben c'est un truc sur lequel il faudra travailler alors. Chacun, hein, chacun, parce que chaque pièce a une relation avec la pièce d'à côté. Et avec une autre pièce. Et on travaille ensemble. Et parce que si je lis Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4 et au verset 16, Éphésiens 4, 16, donc c'est ce chapitre où il parle des dons dans l'Église, et tout le monde aime bien discuter là-dessus, on en parlera certainement la semaine prochaine, mais au verset 16, il nous dit, c'est de lui, c'est-à-dire de Christ, hein, parce que Christ est le chef de l'Église, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties, chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Il en dit beaucoup là. Le verset 16 dit, c'est de lui, et grâce à tous les liens, il parle de liens, cette relation qui existe entre les membres qui composent le corps de Christ, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement. C'est-à-dire, à moins qu'on ait cette relation, à moins d'avoir ces liens, eh bien, il n'y aura pas de croissance. C'est-à-dire, ma croissance dépend de la relation que j'ai avec les autres. Je ne peux pas développer tout seul. Je vois quelqu'un là qui...